Lumumba de Mbujima au Kasai Oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de choisir Radio Okapi. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. Le thème retenu pour la célébration cette année est une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Ce plaidoyer de la 24e édition, selon certains observateurs, relance donc les débats sur la situation de l'éducation pour tous, tous les enfants en République démocratique du Congo. Comment commentez-vous ce plaidoyer? Et que proposez-vous pour améliorer les conditions d'accès à l'éducation pour tous en RDC? Rejoignez-nous pour participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Notez que Noéla est à la réalisation, Jean-Claude Ciala à la technique, Gilles Lungembo est à la coordination et à la présentation de ce programme supervisé par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne M. Théo Kabanga qui va nous rejoindre d'ailleurs d'un moment à l'autre dans ce studio. Théo Kabanga, vous êtes le coordonnateur de la coalition des ONG des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, d'entrée du jeu, les thèmes retenus pour cette année, ces thèmes vaut-ils vraiment son pesant d'or lorsqu'on revient une fois encore sur une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique?
Oui, vraiment le thème vient à point nommé parce que il soulève en lui-même plusieurs préoccupations. On parle de l'éducation de qualité, mais doit-on parler de l'éducation de qualité lorsque les enfants n'ont même pas accès à cette éducation? Donc, déjà, le premier problème, c'est celui d'accès à l'éducation, avant de parler de celui de la qualité. Mais en même temps, les enfants qui sont à l'école ont un problème. Non seulement
Voilà, vous êtes déjà en ligne, je crois que vous êtes déjà dans nos murs, vous allez faire votre entrée d'un moment à l'autre, monsieur Théo, et parce que là, il y a déjà quelques bruits qui, au fait... Voilà, allez-y, vous parlez de l'éducation.
Oui, je disais que, donc, outre le problème d'accès, d'accès des enfants à l'école, il y a un problème de maintenir les enfants à l'école parce que au jour d'aujourd'hui, même les enfants qui vont à l'école ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Donc, c'est comme s'ils étaient aussi en dehors.
Voilà, je crois qu'on va prendre notre invité d'un moment à l'autre, il est déjà dans nos murs, pour qu'il puisse étendre le débat avec nous, 081-890-6315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons en ligne également quelques auditeurs qui nous ont rejoints. Le temps que notre invité puisse faire son entrée dans ce studio, Omar est à Kinshasa et François Abounia. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour Omar.
Bonjour J.R. et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, on parle de la journée de l'enfant africain qui est célébrée donc le 16 juin de chaque année. Le thème retenu cette année est une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Alors certains observateurs pensent que ces plaidoyers de la 24e édition relancent donc les débats sur la situation de l'éducation pour tous, l'éducation pour tous les enfants en République démocratique du Congo. Alors comment vous commentez ces plaidoyers? Et que proposez-vous pour améliorer les conditions d'accès à l'éducation pour tous en RDC?
Merci beaucoup, J.R. Moi, je pense que ces plaidoyers pour son pesant d'or et méritent vraiment d'être soulevés, car il ne vient qu'affirmer un droit fondamental reconnu à tous les enfants du monde. Ce droit n'est rien d'autre que le droit à l'éducation. La Convention du 20 novembre 1989 pour le droit de l'enfant, dans notre pays, la Constitution du 18 février 2006, et pour ajouter la loi du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant, tous ces textes visent à rendre accessible à l'éducation tout le monde. Mais lorsqu'on fait un bilan sur le terrain, on se rend compte que sur 100%, je crois presque 60% d'enfants n'ont pas accès à l'éducation. Soit ils ont accès à l'éducation, mais cette éducation n'est pas bien assurée. Et vous savez, aujourd'hui, j'y ai parmi les indices du développement d'un État, c'est l'accès à l'éducation. Lorsque le nombre de gens qui n'ont pas accès à l'éducation dans un pays est élevé, la conséquence est que ce pays est sous-développé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les experts de l'éducation. Donc, en ces jours, on remarque une incohérence, une dichotomie, un divorce consommé entre le texte qui consacre les droits à l'éducation et la réalité sur terrain. Et la conséquence est laquelle? C'est que nous aurons un État qui est en train de périr, car l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer une nation. Et lorsque les enfants sont mal éduqués, ou lorsqu'ils n'ont pas accès à l'éducation, imaginez les conséquences qui sont dramatiques. Alors, puisqu'il ne faut pas se limiter à critiquer un fait, il faudra aussi soulever les causes pour lesquelles cette éducation n'est pas vraiment assurée. Moi, je pense que la première cause, c'est le non-respect de ce que la Constitution a dit. Dans notre pays, par exemple, on consacre la gratuité de l'enseignement. Mais jusqu'à ce jour, l'enseignement primaire continue à être payé. Autre chose, le défaut de moyens. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un d'envoyer un enfant à l'école. Encore faut-il donner des moyens. L'enseignement coûte cher. Je crois que le minerval le moins cher au Congo, ça peut être 60 ou 70 dollars. C'est le salaire d'un Congolais. Imaginez un Congolais, un fonctionnaire de l'État qui a 70 dollars par mois et qui a 6 enfants dans l'université. Comment arrivera-t-il à envoyer les enfants à l'école? C'est un problème sérieux de moyens. Que pouvons-nous faire pour que cette éducation soit vraiment accessible à tous? Premièrement, dans l'hypothèse de notre pays, il faut que ce qui est prévu dans la Constitution soit respecté, la gratuité de l'enseignement. On reconnaît JR un État sérieux par le respect scrupuleux des textes qu'il met en place. Il ne faut pas se limiter à mettre en place des beaux textes, encore faut-il appliquer ces textes et comprendre. Si vous lisez, je crois, l'article 43, il consacre la gratuité de l'enseignement. Mais vous êtes journaliste et d'investigation, faites un tour sur le terrain. Sur 100%, je crois 30% seulement d'enfants congolais.
Oui, mais le gouvernement a parlé d'une application progressive. L'expérience devait d'abord commencer par Lubumbashi et Kinshasa, si ma mémoire elle est très bonne.
Dans la vie, il faut savoir faire la différence entre la priorité et l'accessoire, entre le structurel et le conjoncturel. Ce qui est prioritaire, c'est l'éducation. S'il faut construire des routes, s'il faut augmenter les salaires des députés et sénateurs, là, c'est une priorité. S'il faut payer les concertateurs lors des conseils de priorité. Mais lorsqu'il s'agit de l'éducation, on parle de la progression. Est-ce qu'on fait une chose de son contraire? Nous ne refusons pas, il faut une progression. Mais pourquoi on fait toujours l'inversion des valeurs? La priorité, c'est l'éducation, sans laquelle personne ne peut accéder au développement. Nous dénonçons cette façon de dormir dans les choses et nous voulons qu'il y ait là la volonté. Deuxièmement.
Oui, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu quand même quelques innovations qui ont été apportées dans la modification de la loi cadre sur l'enseignement.
Oui, cette loi existe. Oui, nous l'avons même critiquée.
Parce que tout récemment.
Mais quel est son impact sur terrain? La beauté d'une loi ne réside pas dans le belle phrase qu'elle contient, mais elle réside par rapport à l'impact qu'elle génère sur le social. Quel est son impact sur terrain? Est-ce qu'elle est respectée? Je pense non. Voilà pourquoi nous voulons interpeller les autorités congolaises. Chacun ce qui les concerne. Il faut qu'on mette effectivement en œuvre la gratuité de l'enseignement. Et deux, il faut qu'on arrive à bien payer ceux qui assurent cette éducation. Lors d'un débat entre Sarkozy et Ségolène Royal en 2007, j'ai aimé ce que Sarkozy disait. L'enseignement, il ne faut pas seulement l'assurer, il faut aussi le rémunérer. Il ne faut pas seulement le rémunérer, il faut aussi le crédibiliser. Il ne faut pas seulement le crédibiliser, il faut aussi le qualifier. On peut bien rendre gratuit l'enseignement. Mais quelle qualité d'enseignement avons-nous aujourd'hui? J.R., c'est scandaleux de voir l'éducation qu'on a aujourd'hui. Et parmi les causes qui fait qu'on n'aille pas une bonne éducation aujourd'hui en Afrique et en RDC, c'est la mauvaise motivation des enseignants. Nous avons de très bons enseignants, mais s'ils sont très mal payés, ils ne donnent rien. La plus belle femme
ne peut donner que cela. Merci beaucoup.
Comment voulez-vous qu'on ait une éducation? Et pour finir, J.R., je voudrais qu'on adapte le programme congolais aux réalités africaines. C'est aussi l'une des choses. On nous raconte l'histoire de Léopold, de l'histoire de Livingstone, mais nos élèves congolais ne connaissent même pas Simon Kimbangu, ils ne connaissent pas Kimpavista, ils ne connaissent pas Nelson Mandela. J'ai interrogé 10 élèves la fois dernière qui est Nelson Mandela, personne ne connaît. Mais qui est Livingstone, tout le monde connaît. Il faut qu'on adapte le programme congolais scolaire aux réalités scolaires. Voilà ma préoccupation, JR, je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir évoqué l'éducation comme indice, un des indices de développement d'un État. Et vous trouvez qu'à ces jours, on remarque une certaine dichotomie, ça c'est pour répondre vos propres mots, entre les textes qui régissent le secteur de l'éducation en RDC et leur application. Alors pour cause, vous avez dit, en tout cas, le non-respect de la Constitution qui consacre dans son article 43 la gratuité de l'enseignement. Alors pourquoi prioriser ce qui ne constitue pas une priorité au lieu de consentir beaucoup d'efforts sur les secteurs qui pourraient être aussi un indice important de développement. Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. François, vous êtes à Bounia. Bonjour. François, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Michel qui est à Matadi dans le Bas-Congo. Michel, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gir.
Vous avez la parole, Michel.
Merci par rapport au sujet du jour et merci aux intervenants qui viennent déjà de mettre les points de vue. Moi, je crois que notre éducation est en train de connaître une régradation chaque jour. Vous savez, je fais les constats par rapport lorsque nous étions élèves et ce que nous vivons aujourd'hui. Les ministères, l'État congolais, l'Assemblée nationale, les Sénat devaient prendre l'éducation comme une préoccupation. Vous savez, lorsque les sénateurs ou nos députés ont donné leur point de vue en ce qui concerne ce qu'ils ont fait, et lorsqu'ils ont dit que tout a été positif, moi je crois non. Il y a des problèmes essentiels qui n'ont pas résolu. Particulièrement des problèmes d'éducation. Comment nous pouvons révolutionner?
Voilà, Michel, on a des petits soucis avec votre ligne. Je ne sais pas si vous êtes un endroit, vous êtes sur une colline ou peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas trop, vous êtes dans une maison?
Ah bon, je me déplace là.
Voilà, là, plus ou moins, vous pouvez aller.
Ah, d'accord. C'est ce que je disais. Nous sommes en train de mal organiser.
Ça ne va toujours pas, Michel. Michel, si vous pouvez peut-être vous repositionner, et ça pourrait donner peut-être notre, ça pourrait améliorer la qualité de la communication et vous permettre de poursuivre votre intervention. Voilà, on va prendre d'abord Simo, qui est toujours dans la même ville, le temps que votre ligne s'améliore, Michel. On va prendre Simo Tsiloulou. Simo, vous êtes toujours à Matadi comme Michel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, je suis Simon Tsiloulou, le coordonnateur provincial de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, ici au Bas-Congo. En fait, nous voulons parler de la gratuité, qui est aussi une mesure contraignante par rapport pour tout pays émergent comme aussi les nôtres. Alors, cette gratuité qui a été consacrée d'abord par la Constitution depuis 2006, a semblé être appliqué depuis 2010. Et nous déplorons quand même parfois la manière discriminatoire que celle-ci a été appliquée depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, Katanga, Lubumbashi, ça ont toujours été épargnés. Alors, quand on dit gratuité, ça vaut un prix. Il faut que l'État congolais soit capable de bien payer cet enseignant de l'école primaire qui est à la base de la formation de ce monsieur qui deviendra ministre demain. Lorsqu'on a supprimé, qu'on a introduit la gratuité dans notre province, nous pensions que l'État pouvait prendre des mesures d'encadrement de cette gratuité. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons lutté, et comme il y a des NP, vous savez, avec ce nombre de NP de l'école primaire aujourd'hui, et puis qu'il y ait la gratuité à l'école primaire, donc ces enseignants vont prester sans rien. Ça pose une difficulté. Il plaît que le gouvernement de la République, auprès de qui nous remettons l'argent pour gérer la République, puisse réfléchir en ce sens. On essaye un peu d'écarter tous ceux qui pouvaient chercher des moyens pour mettre... Parce que la gratuité, c'est-à-dire mettre à l'écart tout obstacle, ce qui peut empêcher à un enfant de poursuivre les études. Donc la gratuité aujourd'hui, qui pouvait être une bonne chose, surtout que nous sommes encore très pauvres. il fallait que le gouvernement puisse faire une étude objective. Étude objective qui consisterait à voir il y a combien de NP à l'école primaire, ceux qui ne sont pas payés. Cet enseignant de l'école primaire qui a 60 000 francs et sans que les parents ne puissent pallier, est-ce qu'avec 60 000 francs, il peut bien former la relève? C'est toutes ces questions qu'il faudrait d'abord réfléchir. Après cela, engager la gratuité, vous verrez que ça va marcher rapidement. D'ailleurs, les enseignants ne veulent plus aujourd'hui au Bas-Congo, tout le monde en parle, hein. On ne veut plus cette prise en charge d'enseignants par les parents qui sont pauvres eux aussi. Donc, il va falloir tout est entre les mains du gouvernement congolais. Lorsqu'il ne sait pas dégager des moyens pour accompagner cette gratuité, il va encore tuer l'enseignement. Parce que les conséquences seront immédiates là. Les élèves qui sont des écoles publiques, les parents qui mettent leurs enfants là-bas, quand ils apprennent que c'est gratuit, combien vous allez payer? Oh non, 2000 francs seulement par mois. Les parents se rendent compte que cet enseignant est sous-payé, mal payé, impayé. Lui remettre les 2000 francs et puis il va bien former mon enfant. Ces parents-là éveillés prennent leurs enfants et les mettent en privé. Maintenant, il y a aujourd'hui dans des grands centres ou grandes villes, il y a maintenant un revirement vers les privés. Les parents prennent les enfants, mettent en privé. Parce qu'il y a le suivi, il y a tout ça. Voilà un peu toute réflexion que nous avons voulu faire. Pour qu'il y ait la gratuité, il faut qu'il y ait l'accompagnement. La qualité passer par les créateurs de la qualité. Si on oublie les créateurs de la qualité, pour chercher la qualité, on n'en aura pas. Donc, c'était un peu notre intervention qu'on merci. Avait, interpellation aussi, par rapport à l'État congolais, à nous donner les moyens pour subvenir à tous les problèmes de ce genre-là.
Merci beaucoup, Simon Tsiloulou, d'avoir appelé. Là, vous évoquez quelques préalables à élaguer, hein, avant d'appliquer, en tout cas, d'une manière effective, cette disposition relative à la gratuité de l'enseignement. Et c'est vrai que ce plaidoyer de la 24e édition de la Journée de l'enfant africain va aussi dans le sens, non seulement de la gratuité de l'enseignement, mais une éducation des qualités obligatoire et adapté. Nous avons suivi Omar tout à l'heure qui a évoqué une éducation adaptée à l'Afrique qui pourrait permettre à ce que l'enfant africain puisse avoir des connaissances sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire des valeurs africaines. Merci beaucoup Simon d'avoir appelé 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Nous parlons de la journée de l'enfant africain qui est célébrée le 16 juin de chaque année. Et le thème aujourd'hui, c'est une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Comment commentez-vous ces plaidoyers?
Parole aux auditeurs.
Monsieur Théo, d'abord, d'entrée de jeu, vous avez suivi cette première série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Monsieur Jésus, vous comprenez que la préoccupation elle est générale et même interpellatrice, non seulement pour le gouvernement congolais, mais pour tout l'ensemble de notre pays, parce que sans éducation, on n'a pas l'avenir. Et tous ceux qui ont intervenu ont commenté et interpellé à divers points de vue, et tous les points de vue sont acceptables. Je pense qu'il est temps que nous puissions prendre les choses par la main. La première difficulté que nous avons, comme je vous ai dit, il y a d'abord l'accès des enfants à l'école. Beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'accéder à l'école. Et là, il y a un problème de distance qui sépare les enfants des écoles, mais il y a aussi le nombre des enfants par rapport à ces écoles-là. Parce qu'il y a des écoles qui sont bourrées d'enfants et d'autres qui en ont moins. Mais aussi, au-delà de cela, aujourd'hui, l'Afrique, au niveau de l'Union africaine, on a exigé à ce que tous les pays africains aient dans leur budget plus ou moins 15% de leur budget national consacré à l'éducation. Et au Parlement, on nous dit que c'est ça qui a été voté, mais ça c'est sur le texte. Or, en réalité, il semble que même on n'atteint même pas 3% décaissés en faveur de l'éducation. Et donc, là, il se pose véritablement un problème, parce que sans budget, sans ressources, vraiment, tout ce qu'on peut parler d'éducation, on parle en l'air. Au-delà de cela, il y a, lorsqu'on parle de la qualité, il n'y a pas que la qualité de l'enseignement, mais il y a aussi l'enseignant, il y a les manuels scolaires, il y a le système scolaire lui-même. Vous savez, dans notre pays, il y a le système français, il y a le système anglais, il y a le système congolais. Donc, dans un même pays, il y a plusieurs systèmes d'enseignement. Alors, quel type d'éducation nous donnons à nos enfants? Pour quel avenir? Et c'est là où l'intervenant qui a parlé des réalités africaines qui doivent être enseignées aux enfants avait vraiment raison de le relever. Mais surtout, cet autre aspect, tous les enfants avec handicap n'ont pas la possibilité d'accéder à l'école. Et aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en mesure de nous dire quel est le programme vraiment fait pour...
L'éducation adaptée.
L'éducation adaptée. Il n'y a pas que des enfants avec handicap moteur, mais il y a des enfants sourds, il y a des enfants qui ont des problèmes particuliers, qui méritent aussi d'aller à l'école. Mais ces enfants, généralement, les parents les cachent parce que ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Ils font la bêtise pour les visiteurs. Donc, et tout ça, ce sont des problèmes que le gouvernement devait... ce sont des citoyens congolais, comme nous tous, et donc ils doivent aussi être éduqués et doivent participer à la construction du pays. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de tout ce qui est arrivé, notamment avec la nouvelle loi cadre sur l'enseignement, il faut qu'on passe à des actes. Il faut qu'on passe à des actes.
Oui, mais Monsieur Théo, d'aucuns sont plus ou moins très sceptiques. Ils se posent la question, mais quand est-ce que nous allons tirer des bonnes cartes dans les efforts qui sont menés réellement pour redorer l'image de notre secteur éducatif? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis du côté du gouvernement. Nous avons même vu, lors de sommet de Mascate, la RDC a été prise comme modèle pour certains pays quant aux efforts qui sont menés. Donc je crois qu'il y a quand même des choses à capitaliser pour pouvoir au fait améliorer aussi la qualité de notre enseignement. Et de l'autre côté, l'a dit Simon, il y a quand même des préalables à élaguer avant qu'on puisse vraiment arriver à répondre au rendez-vous de ces plaidoyers, notamment le cas des non-payés. Il y a des enseignants qui sont jusque-là non-payés, les nouvelles unités, il y a ceux qui ne sont pas mécanisés. Alors tous ces problèmes-là doivent être étudiés déjà en amont pour arriver au fait à appliquer d'autres dispositions telles que la gratuité de l'enseignement, le caractère obligatoire de cet enseignement et pourquoi pas l'adaptation de cette éducation aux réalités internes.
Oui, M. Jodaïs, je pense que vous avez raison de dire qu'il y a des aspects positifs qu'il faut capitaliser. Mais en même temps, comme aujourd'hui c'est une journée de réflexion, je pense que c'est une occasion pour nous de faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement et surtout du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir organiser les états généraux de l'éducation. Dans ces pays, lorsqu'on parle des états généraux, c'est comme si c'est quelque chose qui doit se faire une fois tous les 20 ans, tous les 50 ans. Et pourtant, c'est une occasion pour se remettre en cause, pour voir les avancées, les reculs et améliorer. Aujourd'hui, sans états généraux de l'éducation, on ne peut pas savoir d'où nous venons et où nous allons. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des avancées, mais comment les capitaliser si on ne peut pas ensemble, tous les acteurs impliqués dans l'éducation, se mettre autour d'une table et indiquer où nous en sommes et où est-ce que nous allons. Et voilà une occasion pour nous d'inviter Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et même le ministre de l'Éducation nationale d'envisager la possibilité d'organiser des états généraux de l'éducation.
Est-ce que vous au niveau des ONG, votre coalition, est-ce que vous avez déjà eu à faire ces plaidoyers?
Sans fausse modestie, nous avons fait le plaidoyer.
Et ça n'a pas rencontré d'écho positif?
Le résultat n'est pas positif. Seulement, ce que nous pouvons dire, c'est que la RDC n'est pas la seule, le seul pays dans cet état des choses. Nous venons de Dakar où nous avons participé à un atelier de réflexion sur l'état de l'éducation en Afrique. Donc la situation est générale. Elle est partout, elle est la même. Voilà le comble. Donc l'Afrique
Mais c'est pas un prétexte, c'est pas une excuse pour nous quand même, pour multiplier les efforts afin d'améliorer quand même les conditions d'accès. C'est pas une excuse.
Ce n'est pas une excuse. Donc voilà pourquoi il y a, je crois qu'en 2015 il y a, je crois, un forum international qui va avoir lieu à l'Union africaine pour évaluer, pour faire l'évaluation. Et je crois que l'État a déjà commencé à son niveau de faire l'évaluation qu'il va présenter au niveau de l'Union africaine pour voir. La décennie de l'éducation, ça a donné quoi et qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir?
Alors aujourd'hui, selon vous, où en est-on au fait par rapport aux efforts, par rapport à plusieurs défis et par rapport à tous ces plaidoyers que nous avons, enregistrés de l'extérieur tout comme de l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il y a eu des efforts? L'éducation en RDC se retrouve à quel niveau?
À vrai dire, il y a eu.
S'il faut donner une note aujourd'hui, par rapport à hier et par rapport à l'évolution.
Par rapport à hier, nous pouvons dire que nous étions en guerre, nous étions dans les conflits armés. Aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus de conflits armés, à part l'Est qui est encore dans l'ébullition. Donc, on peut dire qu'il y a eu des avancées par rapport à la paix et donc par rapport à l'éducation. Et lorsqu'on voit le nombre de diplômes, entre guillemets, délivrés, mérités
ou non mérités
par nos enfants, nous pouvons dire qu'effectivement, sur le plan formel, il y a des efforts, il y a des progrès. Mais dans le contenu, la plupart d'enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Et là, c'est un problème. Donc,
Et ça date de quelle année? Depuis qu'on a connu cette période de décadence, cette dégradation de l'éducation?
Il faut mettre ça depuis les années 90, hein. Ça remonte de longtemps.
Plus de deux décennies maintenant.
Plus de deux décennies. Donc la situation, la situation est très grave. Et donc, je dis, sur le plan formel, il y a des avancées. Notamment au niveau des textes de loi, au niveau des mesures d'application. Mais dans le concret, il y a un problème. Parce que le contenu de ces dispositions ne sont pas effectivement appliquées et concrétisées dans les actions du gouvernement.
Nous allons repasser de nouveau de l'autre côté, du standard avec Arsène qui est à Kikwit, Victor Mbanzangungu et Gabriel Awalikale. Arsène, bonjour. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je suis avec vous.
Vous avez la parole, Arsène. Comment vous commencez ce plaidoyer de la 24e édition de la Journée internationale de l'enfant africain?
Ok, je crois que mon intervention va se baser sur le comportement du dirigeant de l'enseignement. Parce que moi, je pense que si on veut noyer une nation, on ne peut que détruire sa jeunesse. Et détruire sa jeunesse, pour quel but? C'est pour juste exploiter cette nation. Aujourd'hui, je veux me référer, ma contribution serait plus en prenant une référence sur ce qu'on a débattu avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, une fois ici sur ces ondes. Je crois que j'ai posé au ministre la question de savoir comment il avait été éduqué, comment il a été formé pour devenir ministre. Est-ce que cette formation qu'il a reçue, c'est la même formation qu'il est en train de donner à nos enfants actuellement? Le ministre m'a répondu ceci. Il y a de ceux qui disent « formons l'homme ». Il y a des autres qui disent « former l'homme utile à la société ». Alors, je ne sais pas quelle est l'option que le ministre prenait pour ces deux positions qu'il avait prises. Alors, moi je veux dire ceci. Vraiment, nous sommes dans un état où tout le monde est en train de se plaindre. La gratuité, le droit à l'éducation... Je crois que mes prédécesseurs ont expliqué ce qu'ils avaient, la loi et ainsi de suite, l'applicabilité. Mais aujourd'hui, voyons tout droit. Qu'est-ce que nous voulons faire de cette nation? Faut-il dire que nous sommes en train de détruire cette nation ou faut-il dire que nous sommes en train de construire cette nation? Parce que aujourd'hui, les résultats sont là. On ne peut pas discuter là-dessus. L'éducation a perdu toutes ses valeurs. On parle de la gratuité. Une fois, j'ai discuté ici avec le ministre, c'est ce jour-là. À mes côtés, il y avait un enfant. Alors, cet enfant m'a posé la question de savoir, « Papa, est-ce que, quand vous alliez à l'école, qu'est-ce que vous apportiez à l'école ?» Moi, je lui ai dit, « Bon, je suis allé à Kizambi en troisième primaire, je n'avais qu'avec moi en main une natte, une couverture et un drap de lit. Le reste, je l'ai trouvé à l'école. Et j'ai passé mes trois ans terminale de primaire sont payés quelque chose à part peut-être le frais d'internat que papa a payé. Alors, aujourd'hui, on trouve les enfants qui doivent demander le frais de transport, qui doivent demander le sucre pour son professeur, qui doivent demander la contribution, la prise en charge des professeurs. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce qu'on peut expliquer la révolution de la modernité? Est-ce que c'est une modernité? Qu'est-ce que nous pensons pour l'avenir de nos enfants? En tout cas, moi, je ne peux traiter
oui, mais
que des criminels. Excusez-moi,
c'est trop fort, heureusement de les reconnaître, Arsène. Mais vous savez tout de même que notre gouvernement s'est lancé dans des programmes très intéressants pour quand même améliorer la qualité de l'enseignement de notre pays, avec ce projet, par exemple, de construction de 1000 écoles chaque année. Je crois que c'est déjà une valeur ajoutée pour notre enseignement. Hier, il y a deux décennies, on avait des problèmes sérieux. On pouvait compter au bout des doigts les écoles publiques, parce que, l'a dit notre invité tout à l'heure, les gens se ruaient. Donc on a remarqué un flux important vers les écoles privées. Mais aujourd'hui, avec ce projet de construction des 1000 écoles, en tout cas, je crois que ça apporterait quand même un changement. Et tout de même, il faut les reconnaître, Arsène. Merci beaucoup d'avoir appelé des Kikuit. Victor est en Bandangungu, dans le Bas-Congo. Bonjour, Victor.
Bonjour.
Vous avez la parole, Victor.
Oui, je voudrais aborder, d'abord saluer à tous les auditeurs et vous aussi à Radio Capi. Et j'aborde ces sujets par rapport à vos dernières expressions-là, quand vous parlez de 1000 écoles construites. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. On peut construire les écoles, mais si ces écoles ne sont pas équipées, si les parents qui doivent envoyer les enfants à l'école n'ont pas de moyens, et là, il y a des problèmes qui se posent si les enseignants ne sont pas payés. Alors, tout cela, ça nécessite des moyens. Donc, on ne peut pas parler de gratuité de l'enseignement sans pour autant que la nation puisse avoir des moyens. Et le moyen, chez nous, dans ces pays, nous les gaspillons. J'ai dit nous les gaspillons. Nous les gaspillons parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire de ces pays un bijou. Malheureusement, le coulage des recettes, on parle en termes de milliards. Et c'est les dirigeants, quand on dit on incrimine les dirigeants. Les dirigeants, ce sont eux qui gèrent le pays, qui savent, qui sont arrivés à faire un diagnostic et arrivés à dire, par exemple, que nous perdons plus de 10 milliards de dollars lors du séminaire sur le coulage des recettes. Et même quand je vais au-delà, l'Observatoire d'éthique professionnelle avait parlé de plus de 20 milliards de dollars qui disparaissent dans les caisses de l'État, qu'on n'arrive pas à récolter, ou bien qui sont récoltés, mais disparaissent dans les poches des individus. Donc le moyen ne manque pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'État n'arrive toujours pas à pouvoir bien gérer ses moyens, pouvoir récolter tous ces fonds et le mettre à la disposition du peuple? Et là, je rappelle l'article 58 qui voudrait que ces richesses profitent à la nation. Donc, je crois que l'État a une lourde responsabilité, ceux qui dirigent. Et quand je vais plus loin, par rapport à la qualité de l'enseignement, ça veut dire tout simplement que avec ceux-là qui sont enseignés, qu'on arrive à mieux exploiter les ressources que nous avons et aussi à prendre le lien de la mondialisation. Aujourd'hui, nous ne savons pas exploiter le cuivre, alors qu'à l'époque, déjà, avant l'arrivée de l'homme blanc, on exploitait le cuivre. Mais aujourd'hui, avec notre enseignement, on n'arrive pas à exploiter le cuivre de nous-mêmes. C'est un problème. La terre, on n'arrive pas à gérer la terre. Et même ceux qui font l'agriculture, l'agronomie, ils vont faire des demandes d'emploi pour être dans une entreprise, alors qu'un ingénieur, un agronome, avec le système d'entrepreneuriat d'excellence, pouvait payer son emploi. Donc voilà, la qualité, on n'arrive pas. Le mécanicien, les voitures sont aujourd'hui, le système est électronique. Nous, on sommes encore dans de vieilles voitures avec des mécaniciens qui réparent le vieux système et nous n'arrivons pas à nous adapter. Si il y a un problème sérieux, c'est comme si ce pays ne nous appartenait pas. On dit, bon, ces enfants, et demain, ils seront perdus, c'est leur affaire. Mais prenons alors cet exemple des Soweto, où les enfants ont pris conscience. Parce qu'il y avait une certaine élite, quelques élites, qui ont inoculé ce venin-là, pas de la révolte, mais de la prise de conscience chez les enfants. Et donc, je pense que ceux qui sont encore activistes doivent inoculer ce venin dans le corps de nos enfants, pour que nous qui sommes au village ici, que les enfants sachent que si nos aïeux, nos grands-pères, nos oncles sont en train de vendre les terres, demain ils n'auront pas de terres. Si on est en train, ceux qui sont au Katanga,
si on est en train de donner les concessions minières comme on les donne aujourd'hui avec la folie, et bien qu'ils sachent que demain, les Congolais risquent d'être esclaves dans leur pays. Il faudrait que les enfants comprennent ça, comme les enfants de Soweto s'étaient révoltés, avaient revendiqué leurs droits à l'époque. Donc, si nous n'arrivons pas à cela, et que nos enfants ne nous interpellent pas parce qu'il y a eu quelques leaders qui ont pu inoculer ce venin dans ces enfants-là, malheureusement, ces pays nous risquons d'être plus que les esclaves
Victor,
qu'on a vécu. Sinon, la gratuité de l'enseignement, ben écoute,
Victor,
suis à côté d'une école, il n'y en a pas. Oui,
voilà. Est-ce que vous pensez que l'idée d'avoir un parlement de la jeunesse, un parlement composé uniquement des enfants, des écoliers, des élèves et des étudiants, pourrait quand même, avoir un écho vers ceux qui dirigent, parce qu'à chaque fois que les problèmes sont sentis et annoncé par eux-mêmes, les enfants, les élèves, les écoliers, les étudiants, ça pourrait quand même rencontrer une oreille attentive de l'autre côté des dirigeants.
Oui, Gère, mais le problème, c'est que dans notre pays, nous avons des institutions, nous avons des structures, des noms, je dis des structures, des noms, ce sont des intentions. Je prends l'exemple.
Donc, ça ne considérera qu'échapper des bonnes intentions.
Mais prenons l'exemple. Dans toutes les écoles, il y a un gouvernement des élèves.
Il y a un parlement de...
primaire ou secondaire à l'université. Mais quand on parle de gestion financière ou bien de perspective de ces écoles-là, ces enfants, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ça allait être une bonne chose s'il y avait cette conscience et si on avait réellement donné le pouvoir. Or, ce qui se passe dans ce parlement des jeunes, dans ce parlement des enfants, d'abord, le mode de désignation, quand ils sont désignés, même les enfants qui votent au niveau de l'école primaire ou bien secondaire, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de voter leurs collègues pour leurs collègues afin qu'ils gèrent et qu'ils participent à la gestion. Ils ne savent pas. Et aussi, et quand ils le savent, vous avez le directeur ou le préfet ou le recteur qui regarde ce gouvernement des étudiants ou des enfants et qui regarde d'un œil plus que terrible. Donc, ça allait être une bonne chose. Malheureusement, c'est nominal, ça n'a aucun sens, puisque les enfants ne comprennent pas. Donc, là maintenant, si nous faisons une forte mobilisation par rapport à cela, donc vous qui avez le média, le leader d'opinion, si on peut vraiment mobiliser les enfants, qui comprennent que quand ils sont désignés parlement des enfants, des étudiants, c'est pour que réellement il y ait une prise de conscience qu'il y ait un changement dans ce pays. À ce moment-là, je pense que les choses peuvent aller de l'avant. Mais tel que c'est géré aujourd'hui, c'est vraiment une formalité. Et pour le Parlement des enfants au niveau général du pays d'ailleurs, comment ce Parlement est désigné? Comment ces parlementaires sont désignés? Mais ils sont désignés à l'image de la désignation du Parlement national, du gouvernement national, avec toute la maladie que nous connaissons.
Voilà,
donc moi je pense que c'est une prise de conscience.
Merci beaucoup.
Ce pays n'a pas d'avenir si nous négligeons l'enseignement. Et même l'Afrique au-delà. J'ai eu l'occasion d'être dans beaucoup de pays d'Afrique,
Victor, visiter d'autres pays. Victor, c'est très beau d'être trop sceptique, hein. Mais je crois qu'il y aura quand même un jour où on va tirer les bonnes cartes. Et même pour améliorer le secteur de l'enseignement. Merci beaucoup Victor d'avoir contribué dans ces débats. Gabriel, on va prendre Gabriel qui est à Walikale. Vous êtes avec nous Gabriel?
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Voilà, vous avez la parole. Votre point de vue, Gabriel.
Oui, monsieur Vieux, je suis en train, moi, de pleurer, surtout dans ce pays, quand on parle de l'enseignant. Et là, je me réfère à la Constitution, c'est son article 36. Par rapport à l'enseignant en RDP, l'enseignant, c'est vraiment quelqu'un qui prend son travail tellement au sérieux, malgré les difficultés dans lesquelles il traverse. Mais le pays, parce qu'il y a un adage qui doit dire ici, tu ne dis rien, est content, tu ne fais rien, est complice. Le pays est complice du malaise de l'enseignant au Congo. Mais également, il est content de ça. Parce qu'il ne se souvient même pas que cet enseignant qui servait le matin. Imaginez-vous, monsieur Juer, nous sommes ici au village, nous sommes à Walikale. Mais il faut voir l'enseignant parfois, avec toutes les souffrances qu'il traverse, mais il essaie toujours de prendre le chemin de la route, le chemin de l'école, pour qu'il enseigne ses enfants là-bas. Mais il faut voir comment l'État gère cet enseignant. Et comment voudriez-vous que l'enseignement soit de qualité pendant que cet enseignant-là, ses souffrances ne sont pas prises en compte par cet État, hein, monsieur Juel?
Merci beaucoup, Gabriel de Walikale. On va prendre Maître Sondil qui est à Lubumbashi. Maître, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs de la Radio Capitale et bonjour aussi à votre invité.
Merci, vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, mon point de vue c'est que d'abord c'est trop alarmant, c'est très regrettable du fait que l'initiative qui s'était fixée, le gouvernement, d'ordonner un enseignement gratuit pour les enfants de l'école primaire, cette initiative n'a jamais été conclue. On n'a jamais nulle part sur le territoire congolais, il y a un enseignement gratuit approprié aux enfants. Nous savons que pour le moment, les parents connaissent beaucoup de difficultés en ce qui concerne leur salaire. Le salaire des parents n'est pas décent. Avec quel montant, avec quel argent que les parents peuvent amener leurs enfants à l'école? Nous vivons de l'épuisement ici à Lubumbashi, au Katanga. Partout là, il y a de l'épuisement. On ne prévoit même pas un endroit là où on doit ériger une école. Ce sont maintenant les privés qui sont en train d'ériger les écoles. Et les écoles privées coûtent trop cher. Et avec cette surenchère-là, comment est-ce que les parents peuvent amener leurs enfants à l'école? Nous estimons que le gouvernement a déjà démissionné de ses fonctions, du fait que c'est le gouvernement qui devait prendre en charge cet enseignement gratuit. Mais aussi, un enseignant qui est très mal payé, des fois le paiement n'est pas régulier, il y a des grèves par-ci, par-là. Comment est-ce qu'un enfant au Congo peut acquérir une bonne connaissance? Moi, je me rappelle du moment qu'on étudiait au collège de Mara. On faisait deux bons, les enfants, on avait et tout le matériel, était là. Vous comprenez un peu. Alors, monsieur Gilles.
Oui, alors, on suit, maître Sozil.
Oui, tout le matériel était là. Mais maintenant, quels sont les efforts que le gouvernement peut fournir pour qu'aujourd'hui, chaque enfant puisse recevoir une instruction? C'est vraiment alarmant.
Voilà, il ne faut pas non plus oublier, maître Sozil, je crois que si vous avez la mémoire, à une certaine époque, la RDC, en fait, jouissait de cette coopération avec d'autres pays. Nous pouvons citer par exemple le cas de Haïti, qui venait en appui sur dans le secteur de l'éducation vers les années 60, 70, voire même les années 80, où les Haïtiens étaient vraiment actifs dans les secteurs. Mais après les années 90, nous avons vu la coopération qui n'a plus existé avec d'autres pays, et c'est là où c'était les débuts du problème. Et aujourd'hui, nous sortons du gouffre, parce qu'il faut encore des efforts pour vraiment sortir le secteur de l'éducation du gouffre, et surtout avec ce maigre pourcentage alloué dans la part du budget, dans le budget, la part allouée à l'enseignement, qui est aussi maigre, qui ne peut pas répondre à tous les défis, à tous les besoins.
Oui, monsieur J. Justine, que je n'en dis qu'on ne pas, ça c'est déjà obsolète. Nous parlons du présent. Puisque le gouvernement ne devrait pas seulement compter sur les appuis d'autres pays, d'autres organisations, le gouvernement doit prendre sa responsabilité en main. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité en main. Comme l'a dit mon prédécesseur là, moi je suis quelque part responsable. Si quelqu'un vient de poser sa demande d'emploi, M. J.R., il faut voir combien de fois, à partir de sa demande d'emploi, on rejette sa demande. Vous comprenez un peu. En tout cas, M. J.R., le gouvernement doit fournir tout un combo au gouvernement. Le gouvernement doit fournir un grand combo. Tout un combo aussi au Parlement. Puisque le Parlement doit aussi prendre en compte le budget attribué à l'enseignement est très modique. Et ce budget ne peut rien fournir pour une institution décente qui peut être octroyée aux enfants. C'est un peu ça, M. J.R. Nous émettons une grande inquiétude à ce qui concerne l'enseignement au Congo. Nous risquons de perdre même... C'est pourquoi nous perdons même des cerveaux, tout ça. Vous voyez, M. J.R., ceux qui ont aujourd'hui l'argent envoient leurs enfants en Europe, en Afrique du Sud. Là, ils ont des enseignements appropriés et ils seront obligés d'être toujours au-dessus de nos enfants qui étudient au Congo ici, puisqu'ils semblent être abandonnés.
Merci beaucoup, maître Sozil, d'avoir appelé de Lubumbashi, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va juste accorder la parole à Joseph, qui attendait depuis longtemps. Joseph, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je vous écoute, M. J.
Vous avez la parole, Joseph.
Oui. Pour moi, je suis de Goma enseignant aussi. Au lieu de tromper les parents qu'il y a enseignement gratuit, ainsi de suite, là, ça c'est faux et archi faux, et ça ne peut pas arriver avec le gouvernement que nous avons. Mais au contraire, ce qu'il fallait, c'est de pouvoir demander aux parents de payer un montant bien précis, qui sera géré par le même État. Comme ça, ils vont payer les parents. Parce que même l'argent que les parents payent, profitent plus aux gestionnaires d'école au lieu de profiter aux enseignants. Donc ils travaillent, mais ils bénéficient un peu de rien là. Donc il fallait maintenant chercher comment centraliser cet argent. On cherche un montant bien précis au lieu de tromper que l'enseignement sera gratuit. En tout cas, ça, c'est, nous allons attendre plus tard. C'est ça ma contribution, J.R.
Merci beaucoup, Joseph. Monsieur Théo Kabanga, vous êtes coordonnateur de la coalition des ONG des droits de l'enfant. Alors, vous avez suivi cette longue série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Je pense que vous avez compris la nécessité d'avoir des états généraux de l'éducation. Les problèmes sont multiples et ce n'est pas en une heure qu'on peut les débattre et trouver des solutions. Mais j'ai dit par rapport à la qualité de l'enseignement, au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays. Parce qu'on nous dit que celui qui ne connaît pas l'ordinateur est un analphabète. Or, aujourd'hui dans nos écoles, les enfants n'étudient pas, ne connaissent pas l'informatique.
Non, même s'ils apprenaient, mais donc, dans quel bureau, dans quel ministère public vous aurez cet outil de travail? Parce que c'est le problème, parce que nous connaissons l'état dans lequel, l'état des lieux du pays est connu. Vous faites, vous arrivez dans certains bureaux comme nous, les bureaux de l'État, qui se trouvent dans quel état? C'est à peine que d'ailleurs le ministre de la fonction publique s'est lancé dans cette démarche de pouvoir réhabiliter d'abord le bâtiment et aussi équiper le bâtiment, parce que c'est là le problème aussi.
Voilà la difficulté de définir la qualité de l'enseignement. Lorsqu'on parle de la qualité, de quoi nous devons avoir comme référence? Ça, c'est une première difficulté. Les intervenants ont insisté sur l'enseignant lui-même. Au jour d'aujourd'hui, les instituts supérieurs et pédagogiques sont en train de diminuer en nombre, alors que la population est en train de s'accroître. Nous en avons la preuve avec l'université de l'UPEN.
Qui a développé d'autres filières, pour attirer
donc,
davantage.
Officiellement, l'État est en train de démontrer que la profession enseignante est démotivante. Donc, il n'y a pas une politique claire en matière d'éducation des enseignants. Et lorsqu'il n'y a pas cette politique claire, et tout le monde est en train d'aller vers d'autres sources où on peut les trouver. Alors, qui vont éduquer nos enfants aujourd'hui et demain? Voilà la préoccupation. Mais en même temps, par rapport à ceux qui sont intervenus, il y a cette difficulté d'allier nos réalités à l'éducation. Généralement, on parle de l'enseignement primaire comme étant l'enseignement maternel, donc en langue maternelle. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Que les langues maternelles sont de plus en plus dévalorisées. Les enfants ne connaissent pas nos langues nationales.
Mais la loi cadre sur l'enseignement qui venait d'être modifiée donne au fait, parmi les innovations apportées, il y a notamment cela.
C'est vrai, j'ai dit, il y a une part.
Qui autorise l'enseignement en langue nationale.
Oui, il y a une part, ce qui est écrit, il y a une part, ce qui est irréalisé. C'est ça la difficulté. Est-ce qu'il y a une contrainte pour les écoles de donner l'enseignement en langue maternelle? Non, c'est un choix. Et donc, ils peuvent choisir ou ne pas le faire. Alors, ou à ce moment-là, quelle est la politique du pays en matière de langue nationale? Et donc, nous sommes en train de perdre, même dans nos chaînes de radio et de télévision, combien d'émissions,
de programmes
sont en langue nationale. Donc, nous sommes déjà nous-mêmes en train de nous acculturer et donc de nous mondialiser et donc de perdre nos propres valeurs. Voilà un peu la situation en matière d'éducation des langues. Lorsque nous-mêmes, nous n'avons, je sais qu'il n'y a pas de dictionnaire de langues, de nos langues. Donc, il y a déjà ce problème et donc nous sommes en train de nous acculturer. Et la mondialisation va nous poser problème. Nous allons y entrer pieds et mains comme des esclaves.
Voilà, on va prendre une dernière série des auditeurs. Il y a Joseph qui est à Goma, Papi qui est à Kinshasa et puis Désiré à Kolozi. Papi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Papi.
Allô?
Vous avez la parole, votre point de vue, Papi.
Oui, moi je pense que pour qu'il y ait une éducation de qualité, il faut mettre préalablement l'homme, c'est-à-dire les personnes intéressées. Mais ce qui est construire les écoles est une chose. Améliorer les conditions sociales et la compétence du personnel éducatif en est aussi une autre. Il est évident par ailleurs que notre système éducatif est composé non seulement des établissements publics, mais aussi des établissements privés qui sont devenus aujourd'hui une sorte de business. Et les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles privées et publiques parce que c'est là où ils apprennent une bonne formation. En clair, on ne peut pas envisager une éducation de qualité sans tenir compte du secteur privé et du maître du sérieux. Même dans le JF, un autre défi à relever, c'est le phénomène des nouvelles unités. Vous savez, surtout à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'enseignants qui envoient 10 anciens cadres sans être mécanisés. Et pour être mécanisés, ils dépensent leur argent propre. Comment voulez-vous envisager une bonne formation dans de telles conditions? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Papy, d'avoir appelé. Nous allons prendre Désiré qui est à Colosi. Désiré, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Désiré Campache à Colosi.
Vous avez la parole.
Oui, c'est un grand regret quant à voir, n'est-ce pas, la dimension de la RDC. C'est un pays à scandale géologique mondial. Hein. Mais, très bien, le niveau, n'est-ce pas, de l'éducation est au rabais, et puis les conditions même de l'accessibilité, n'est-ce pas, aux études, c'est très difficile. On dit non, c'est la, n'est-ce pas, c'est l'enseignement primaire est gratuit, mais c'est faux. Je pense que si c'était gratuit, cet enseignement devrait être contraint, obligatoire. On devrait, n'est-ce pas, obliger tous les parents. Mais si vous circulez, même ici à Colosi, vous trouverez bon nombre d'enfants sur la route, sur les avenues. Bon, c'est communément appelé des chèques, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. Et puis, un grand regret que je constate, c'est concernant par rapport, n'est-ce pas, à l'article 65 de la Constitution de 2006, qui dit « Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et des taxes. » Voilà, le même parent, qui, n'est-ce pas, qui paye les impôts, les taxes, n'est-ce pas, devant l'État, c'est cet argent qui devrait servir, n'est-ce pas, pour payer les enseignants et les fonctionnaires de l'État. En même temps, les parents travaillent, par exemple, dans une entreprise minière, ou bien dans quelle, n'est-ce pas, entreprise, mais ils payent l'impôt, et en même temps, n'est-ce pas, ils payent encore, les enseignants. Donc, ça, c'est une expérience. Et ça, c'est en train d'exploiter les parents. Voilà mon inquiétude, Monsieur JL.
Merci beaucoup, Désiré, d'avoir appelé de Colosi. C'est vrai, il y a quand même une inquiétude par rapport à... Nous avons comparé quand même des époques, Monsieur Théo. Tout à l'heure, on parlait de l'époque où il y avait vraiment une forte coopération avec d'autres pays dans le secteur, et ça donnait quand même des fruits. Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, aujourd'hui, si nous revenons à ces partenariats, à cette coopération dans les secteurs d'éducation, ça pourrait quand même résoudre les problèmes tant soit peu, et aussi réduire un peu l'impact de cette privatisation qui prend un peu de la prise sur les publics, quoi.
Je ne pense pas que ça soit une solution au jour d'aujourd'hui, parce que à l'époque, il y avait un problème au fait qu'il n'y avait pas d'enseignants. Du fait de la guerre, beaucoup avaient abandonné, beaucoup avaient fui leur milieu, et ainsi il fallait faire appel à des expatriés. Mais nous savons que les expatriés coûtent encore plus cher. Et donc, est-ce que en prenant les expatriés, en les payant plus cher, est-ce que nous avons résolu le problème? Moi, je pense que le problème est plutôt endogène. Il est question que le gouvernement prenne ses responsabilités, d'abord en payant comme il se doit les enseignants qui sont là, en les dotant d'un cadre de travail conséquent. Parce que même si on amenait les expatriés, ils vont avoir besoin des manuels scolaires, ils vont avoir besoin des matériels didactiques, ils vont avoir besoin, comme on a parlé, de l'outil informatique, et ainsi de suite. Mais est-ce que les nôtres, au jour d'aujourd'hui, ils sont dotés de tout cela? Non. Alors, même si on appelait les expatriés, j'ai dit bien, le problème va rester entier parce que le cadre général n'est pas assaini.
Malgré la loi cadre
qui n'est qu'une intention, une manifestation d'intention, mais qui doit être concrétisée par un budget conséquent et par des décisions qui doivent accompagner cette loi. Sinon, c'est pour nous beurrer.
Alors donc, je disais, une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Donc vous partagez le point de vue de Omar qui parlait tout à l'heure d'une éducation adaptée à nos réalités.
Oui, mais nous n'avons pas beaucoup insisté sur le caractère obligatoire. Le caractère obligatoire de l'enseignement veut dire que pour chaque enfant, l'éducation est un droit. Et l'éducation, parce que c'est un droit pour chaque enfant, c'est une obligation pour l'État. Donc l'État doit disponibiliser les bâtiments, les enseignants, les manuels, ainsi de suite. On ne peut pas parler du caractère obligatoire lorsque toutes ces conditions ne sont pas réunies. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est une occasion d'interpeller le gouvernement pour que le caractère obligatoire soit exactement une obligation pour l'État de faire ce qu'il doit faire pour chaque enfant. Chaque enfant, monsieur le journaliste, est un cas à part. Donc on ne peut pas dire que 1000 écoles, ça va résoudre des problèmes, et tous les autres enfants, ils vont attendre quand? Voilà la difficulté.
Donc vous avez parlé tout à l'heure des enfants vivant avec handicap, par exemple, ça demande quand même une éducation spécifique.
Oui, par rapport à l'éducation adaptée, nous avons dit que notre gouvernement devait voir toutes les catégories d'enfants, en commençant par les enfants plus ou moins normaux, mais les enfants avec handicap, même les albinos. Parce que les albinos ont des problèmes spécifiques des yeux, et donc on doit trouver des possibilités pour les aider à mieux étudier. Et même les enfants sourds, les enfants muets, doivent avoir des enseignants adaptés à leurs préoccupations.
Voilà donc ce plaidoyer, vous l'avez dit, de cette 24e édition de la journée mondiale de l'enfant africain. Vos sont pesants d'or, vous les confirmez. Il faudrait que les gouvernants ou encore le gouvernement congolais puisse au fait passer à la vitesse supérieure pour permettre à ce qu'on puisse vraiment répondre aux besoins actuels du secteur de l'éducation, notamment en améliorant le taux, disons, de la part allouée dans le budget pour effectivement investir dans l'éducation. Et aussi tenir compte de certains préalables que les auditeurs ont évoqués tout à l'heure, notamment les cas de nouvelles unités, les cas de non-mécanisés, pour permettre à ce que chacun puisse travailler dans des bonnes conditions et aussi attendre les résultats. Merci beaucoup, Monsieur Théo Kabanga. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la coalition des ONG des droits de l'enfant et surtout d'avoir accepté de vous déplacer pour participer à cette émission. Merci, à très bientôt.
Merci, Monsieur Jérôme.
Jean-Claude Ziala qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Noëlla Louzitou, présentée et coordonnée par J.R. Mugembo sous la supervision de Nicole Gaka. On se retrouve demain pour un autre numéro.